Dominique A, il va nous chanter le courage des oiseaux, car ils nous ont du courage, les oiseaux. Et ensuite, on retrouvera Olivier Tanga, qui est un oiseau rare aussi, qui, après des études en BEPA gestion forestière et un brevet technique agricole, est devenu accompagnateur en montagne et est devenu aussi consultant en ornithologie.
Dieu, cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors c'est ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête. Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Portrait de métier, la suite avec un autre invité. Après Caroline Roux qui nous a proposé de nous coacher par rapport à nos émotions et intuitions. Portrait d'un homme proche de la nature, Olivier Tanga. Olivier, après des études en BEPA, gestion forestière, un brevet technique agricole, gestion de la faune sauvage et un BTS, gestion et protection de la nature, un cursus qui l'a entraîné sur le plateau du Vercors et qu'il a découvert ainsi le métier d'accompagnateur en montagne qu'il a obtenu brillamment. Animateur environnement au CPIE Alpes de Provence et puis pendant 10 ans à Manosque et à Barcelonnette, puis garde animateur en réserve naturelle au sein du parc national de la Vanoise en 2008 et 2009, puis chargé d'études au Conservatoire d'espaces naturels de Provence, basé à Sisteron, jusqu'en 2012 avec la mission de cartographier les zones humides du département. Et Dieu sait s'il y en a des zones humides dans ce département. La nature a toujours été toujours ma passion première et j'ai toujours ardemment souhaité en faire mon métier, dit-il. Il est là en chair et en os, le spécialiste des zones humides, Olivier Tangar. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Olivier, tu as un cursus très impressionnant. Tu as vraiment commencé par un BEPA gestion forestière et tu as continué. C'est un rêve que tu as construit ?
Oui, alors en fait, c'est une histoire qui nous emmène il y a longtemps, puisque en fait, je le dois un peu à mes parents qui m'ont amené très tôt dans la nature. Et on allait cueillir le genévrier, les sanguins, différentes choses. Mon père étant chasseur, en plus, il m'a amené à être au contact de la nature très tôt, avec la randonnée également. Donc voilà, ça m'a un peu habité rapidement, quoi, en fait.
Donc si un chasseur, qui est ton papa, t'a montré de belles choses, c'est que c'est un bon chasseur, parce que tu sais qu'il y a les bons et les mauvais chasseurs. C'est une petite blague nette. Moi, c'est un petit peu comme la spécialisation dans les zones humides. C'était pas du tout une blague méchante. C'était juste pour dire qu'effectivement, il y a des zones humides dans le coin. On est dans le sud, mais il y a des endroits où il y a de la population qui vit dans le marais. Il y a des rivières. Tu as une compétence particulière par rapport aux oiseaux.
Oui, alors effectivement, on dit que je suis ornithologue. Enfin, c'est ce qui se dit. Les spécialistes qui étudient les oiseaux, ce sont les ornithologues. Oui, c'est une passion qui m'est venue un peu plus tardivement que pour la flore et pour la montagne, on va dire. Mais qui m'habite également. Et c'est plutôt le côté musical, en fait, qui m'a interpellé. Mais aussi les couleurs. Et du coup, ce mélange des deux là qui m'a bien passionné. Et puis, il faut dire que j'ai trouvé sur mon chemin des amis qui étaient eux-mêmes ornithologues avant moi et qui m'ont transmis le virus.
Ouais. Encore un virus ? Non, on va arrêter avec le virus, si tu veux bien.
Ah merde !
Mais c'était avant.
Oui,
c'était,
non, c'est
c'était
vrai.
C'était avant.
J'aurais pas dû
tu
dire
parles
ça.
des couleurs, mais les couleurs, elles inspirent du bien-être, de la joie. Elles inspirent. Qu'est-ce qu'elles inspirent, les couleurs des oiseaux ?
Ah ben moi, c'est l'extraordinaire création de la nature qui m'a tout de suite étonné. C'est vrai que ce mélange de couleurs sur un oiseau, tel une palette de peintre, c'est déjà extraordinaire, quoi, en fait. Mais en plus, le fait que ces êtres, ces petites boules de plumes, savent chanter d'une manière totalement hallucinante... m'a beaucoup interpellé, quoi. Ouais.
Le chant des oiseaux aussi, si tu fais de la prise de son aussi.
Oui, alors moi, à mon niveau, je fais pas trop de prise de son, hein, mais par contre, je passe énormément de temps à écouter les chants, puisque dans mon métier, en fait, il faut savoir détecter les chants d'oiseaux et essayer de déterminer les différentes espèces au chant. Et ça se travaille, je passe beaucoup de temps dans la nature à les écouter, mais aussi dans ma sonothèque, à écouter les différents sons.
Tu peux nous préciser ce qu'est une sonothèque ?
Ben, une sonothèque, en fait, c'est une bibliothèque de sons, quoi, en fait. Donc j'écoute régulièrement les différents sons pour ne pas perdre, parce que c'est de l'entraînement aussi, pour ne pas perdre l'ouïe. Et chaque printemps, quand vient l'explosion des chants d'oiseaux, à partir du 15 mars, c'est le début de la période. Et pour moi, ça va être un moment de grande écoute.
Spécialiste en environnement, et ton environnement, c'est ça.
Exact.
Je voulais encore te mettre dans des bonnes conditions, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on entend depuis quelques temps, là, le matin.
Ça consiste en quoi exactement ton travail? Tu travailles pour le département, pour des administrations qui travaillent en relation avec la flore et la faune?
Oui, alors, je suis consultant en ornithologie. Ça consiste à essayer de détecter les espèces sur un espace particulier. Et ce qu'on recherche, ce sont ce qu'on appelle les espèces à enjeu. Donc des espèces qui sont particulièrement menacées et qui ont besoin d'une protection particulière et qui font déjà l'objet de protections réglementaires qu'il faut pouvoir rappeler dans un dossier d'étude qui est ensuite donné à l'intention des décideurs.
Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça, parce que jusque-là, tu nous parlais de la couleur des oiseaux, tout le monde comprend, le chant des oiseaux, tout le monde comprend. Maintenant, on va parler termes techniques, administratifs, technocratiques.
Accrochez-vous.
Accrochez-vous aux plumes des oiseaux. On va décoller. Vous êtes prêts? Alors, les décideurs de quoi?
Bon.
De qui?
J'interviens par exemple sur des études d'impact sur l'environnement.
Oui.
Alors, ça consiste à réaliser en fait des études pour étudier tel ou tel impact. Par exemple, récemment, là, on a eu le projet de réhabilitation de la Bléone en fait et de ses alentours.
Donc la Bléone.
La rivière Bléone qui passe à Digne. Et dont il a fallu étudier les impacts de travaux concernant la reprise des seuils. Donc là, je vous expliquais, ce sont des mini-barrages qui étaient au milieu de la Bléone et dont l'Europe a décidé qu'il fallait en supprimer en fait les contours pour pouvoir laisser passer les migrations de poissons, notamment, et remettre en état naturel le substrat de la rivière, c'est-à-dire le fond de la rivière. Bref, avec tout ça, il était prévu une horde de passages de bulldozers, comme à chaque chantier. Et donc, mon travail consiste à rechercher les impacts qu'il peut y avoir sur telle ou telle espèce et à proposer des outils d'atténuation, voire de protection, de compensation de tout ça.
Ouais. Comme tu en parles, on voit que tu sais de quoi tu parles et on finit par comprendre de quoi tu parles. Donc les décideurs, on a compris, c'est dans les grosses institutions.
Voilà.
Par rapport à des lois qui tombent.
Voilà, pour revenir à ta question précédente, effectivement, il nous arrive de travailler pour le département, pour la région, pour les communautés de communes, mais aussi pour des groupements, des syndicats de rivières, par exemple. Et qui ont absolument besoin de ces études. On a
pourquoi
on a ces garde-fous actuellement qui font que les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et du coup, on a un droit de regard sur leur action en fait, et on essaie d'accompagner. On accompagne dès le début en fait de chaque projet les entreprises dans la réalisation des chantiers qu'elles doivent faire. Et le but, c'est de limiter au maximum l'impact sur l'environnement.
Tu parles de la création des entreprises en général dans toute la région ou des entreprises qui sont liées à l'environnement, c'est-à-dire qui risquent de rejeter des déchets toxiques ou je ne sais pas, quelque chose qui impacte directement.
Ouais, là, je parle essentiellement...
Tu peux nous préciser quel type d'entreprise vous...
Par exemple, dans le cadre d'une réhabilitation de pont, par exemple, on va avoir la direction des routes, par exemple, qui va devoir faire des travaux pour élargir, par exemple, ou pour changer carrément un pont, comme ça a été le cas pour le pont de la Durance. Là, à chaque fois... on a des entreprises qui ne savent pas exactement quels impacts il peut y avoir sur la nature, que ce soit sur la flore d'ailleurs ou sur la faune. Et donc, on est là pour travailler de concert avec eux et de faire en sorte que les impacts soient le plus minimisés possible. Voilà.
Mais c'est magnifique. En fait, tu es un garant, tu sauves, enfin, de la sauvegarde de la nature, de ce qui existe depuis des millénaires.
Oui, ben, j'essaie d'être un peu un des gardiens de la Terre, en fait, comme certaines personnes l'ont chanté et le déclament en slam. Mais du coup, c'est vrai que oui, c'est un métier où on se sent utile, en fait, et on est utile parce qu'on est consulté régulièrement à chaque étape, et ce sont des dossiers obligatoire, je veux dire. Heureusement, on a encore ce type de garde-fou, et on peut dire que la plupart du temps, ça se passe bien. Contrairement à ce qu'on peut penser, des fois, on se dit, ouais, encore des études qui servent à rien, tout ça. Et en fait, les propositions de gestion que l'on fait sont suivies. C'est une obligation de la part des différents États. C'est une loi européenne. C'est inscrit dans la loi de protection de la nature de 76 en ce qui concerne la réglementation française. Mais il y a d'autres lois depuis qui... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que là, je vais vite...
Mais si, c'est intéressant que tu rentres un petit peu dans le détail technique, tout simplement parce que ça nous renseigne et puis tu peux aussi nous faire un petit peu de pédagogie, c'est-à-dire qu'on puisse aussi faire un effort pour essayer de comprendre ton univers. Parce que si tu vas étudier les oiseaux, que tu prends le temps d'écouter leur chant, que tu prends le temps de regarder la couleur qu'ils ont pour ensuite en faire des rapports administratifs, bon, sauf si tu as un problème psy assez prononcé. Et que tu es maso, je suppose que si tu fais ça, c'est parce que tu as envie de protéger cette nature et puis que c'est important que les gens le sachent qu'il y a des gens comme toi qui font du bien au monde. Et ça, c'est très, très, très important. On va faire une petite pause musicale et on va se retrouver juste après pour la seconde partie du portrait. Je vous propose d'écouter Max Romeo. Ça s'appelle Eve of Destruction. C'est son dernier album. C'est un Jamaïcain qui a 74 ans et quelques bricoles de mois, je pense. Il a pas, enfin, il a plus de 74 ans. C'est un homme extraordinaire. Et Eve of Destruction, si vous comprenez l'anglais, vous allez voir, c'est une chanson qui est très révélatrice de notre temps. Et justement, on va essayer de pas trop destruction la Terre. Allez, c'est parti.
The Eastern world is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill but not for voting. You don't believe in war, what's that gun you're toting? Even the Jordan River as bad as floating. But you tell me over and over again, you don't believe you're on the eve of destruction. Eve of destruction. The eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, my boy. It's bound to scare you, my boy. Of destruction. Yeah, my blood's so mad, feels like undulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect isn't disintegration, the whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over again that you don't believe you're on the eve of destruction. Eve of destruction. Eve of destruction. We'll be right back.
is in Red China, then take a look around in Selma, Alabama. You may live here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say your grace. And you tell me over and over again, eve of destruction. I said you don't believe her on the eve of destruction. We don't believe her on the eve of destruction.
Allez, la suite avec les petits oiseaux et les bruits de l'eau, les bruits de la nature, le vent aussi peut-être, enfin tout ce qu'on retrouve dans les quatre éléments qui nous amènent à la quintessence, à la prise de conscience et puis la prise de conscience d'être. Et peut-être on ira jusqu'au verbe aimer. Alors là c'est complètement barré. C'est le reggae qui m'a fait ça là. Pourtant, je ne prends pas de produits stupéfiants, mais le reggae, c'est stupéfiant quand même. Allez, blague mise à part, on retrouve donc Olivier Tanga, notre ornithologue préféré. C'est un gars de la région, vous avez compris. Il y a une proximité qui nous permet aussi de nous comprendre au-delà du fait que cet homme que je connais depuis longtemps a aussi un parcours que je ne connaissais pas avec autant de précision et autant de... Comment on dit, tu t'es accroché à vraiment te former, vraiment à être dans quelque chose de passionnel et de passionné, j'ai l'impression. Olivier, est-ce que tu peux tu nous as expliqué exactement à quoi servait ton travail, notamment, donc on a compris, tu constates, tu fais des statistiques en fait.
Alors c'est pas que
tu comptes les oiseaux, tu...
Ouais, c'est pas forcément que des statistiques, c'est aussi au niveau qualitatif.
Oui.
J'essaie de savoir quelles sont les espèces qui peuplent un espace donné, quoi, en fait, et essayer de trouver parmi ces espèces, celles qui sont les plus menacées pour pouvoir proposer des plans d'action de sauvetage, en fait, par rapport à un projet donné.
Il y a de nombreuses associations de défense de la nature, et dans le 04, il y a de nombreuses associations qui s'intéressent aux rivières, qui s'intéressent à la forêt, qui s'intéressent aux collines, qui s'intéressent à la montagne, qui s'intéressent à la faune, à la flore. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette relation que tu as avec ces associations que tu dois connaître forcément ?
Oui, effectivement, je les connais depuis très longtemps. Il y a différentes associations comme le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans lequel j'ai travaillé, la Ligue de protection des oiseaux aussi, qui est aussi très active. Et puis après, il y a aussi des associations d'études des rivières également, ou encore les parcs naturels régionaux, bien sûr, du Luberon, du Verdon. On a différents parcs, le parc du Queyras, du Mercantour, en ce qui concerne les parcs nationaux, le parc des Écrins. C'est vrai qu'on est bien, lotis en espace naturel. Et un organisme, ça serait difficile de tous les citer ici. Mais c'est vrai que chacun a son action. On travaille de concert avec ces organismes-là depuis très longtemps.
Et puis travailler de concert aussi avec les oiseaux.
Et forcément, concert d'oiseaux, James. Hein, ouais.
J'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Ouais, désolé, je suis en soin en ce moment.
Bon, j'espère que tu te soignes bien au chant d'oiseaux, parce que là, en ce moment, le matin, on a ce qu'il faut.
Oui, on a ce qu'il faut.
Ouais, ouais, et oui, on travaille depuis très longtemps avec eux. Même moi, j'ai été animateur environnement pendant 10 ans, donc
au CPIE,
on travaillait
donc
tout le temps hein, ensemble.
C'était voilà. Au CPIE.
Voilà, au CPIE à Manosque. Mmh. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance de parler des oiseaux très tôt au jeune public, quoi, en fait, et d'essayer de leur transmettre ma passion, quoi, en fait. Je pense, d'ailleurs, il y en a encore que je rencontre dans la rue et qui m'expliquent que ça a été des moments exceptionnels pour eux, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, des fois. C'est assez sympa.
Ça crée de la relation, de parler de tout ce qui nous compose, finalement, et tout ce qui nous entoure.
Ben oui, parce qu'autour de leurs écoles, ils ont aussi pas mal d'oiseaux qui chantent, mais c'est toute la nature aussi qui est ce qu'elle est. Bon, voilà, ça dépend des endroits. C'est vrai qu'à certains coins de Manosque, un peu plus bétonisés, on va dire, c'est un peu plus difficile, mais on arrive toujours à trouver des parts de nature qui peuvent les émerveiller et les éclairer, quoi.
Oui, puis dans les zones bétonnées, on trouve des oiseaux rares aussi à une certaine heure, mais bon, ça, c'est des
c'est
oiseaux
pas les
de
mêmes,
nuit.
Ceux-là.
Il y a toutes sortes d'oiseaux.
Il faut se méfier. Ouais.
Tu nous as parlé donc du cœur de ton métier là, qui consiste à, évidemment, on a compris, t'as un long parcours qui est très précis, la gestion forestière, un brevet technique agricole en gestion de la faune sauvage, un BTS de gestion et protection de la nature. Bref, différentes expériences dans différents endroits comme le Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence et puis aussi cette mission particulière dont tu viens de nous parler, de cartographier les zones humides du département. Tu vois, je reviens là-dessus. Ah, tout à l'heure, j'ai fait une petite blagounette. Mais bien sûr que ça m'intéresse, évidemment. Je veux savoir où se trouvent, où se situent ces zones. En fait, quand on se balade le long de la Durance, quand on arrive par exemple du côté de Sisteron, c'est quand même assez impressionnant, juste à côté du rocher là, où l'autoroute passe dessous d'ailleurs, cette zone avec des roseaux, et puis après quand on part un peu plus haut et ainsi de suite, et puis même quand on va au bord de Durance, il y a des zones absolument incroyables.
Ouais, la Durance, c'est vraiment... une rivière passionnante avec énormément d'espèces d'oiseaux, 380. Donc du coup, c'est une des plus grandes richesses de la région que l'on est au niveau naturel. Elle est classée zone Natura 2000, mais pas seulement.
Natura 2000, c'est-à-dire, tu peux nous préciser ?
Une zone Natura 2000, c'est une zone qui a été désignée par l'Europe comme étant exceptionnelle pour la faune et la flore. Hein. Des zones Natura 2000, on en a pas mal dans le département. Elles font partie d'un réseau européen, en fait. Et je crois qu'il y a à peu près, je me souviens plus du chiffre, mais je crois qu'il y a à peu près 20% du territoire qui est classé Natura 2000 au niveau européen. Voilà.
Et donc, moi, je te parlais de la Durance, parce que moi, c'est la première zone humide que je vois, mais bon, elle est visible, parce que c'est quand même grand, la Durance, mais certainement qu'il y a des endroits dont on ne soupçonne pas, où il y a une classification qui est faite ainsi.
Bah, ce travail qui a été impulsé par la préfecture, en fait, et qui a été accompagné par l'Agence de l'eau et le Conservatoire d'espaces naturels, consistait à cartographier vraiment toutes les zones où on puisse trouver de l'eau, en fait, puisque ce sont des zones qui ont disparu, elles ont été asséchées de l'ordre de 50% durant la dernière moitié du siècle dernier, on va dire, de 50 à 2000. Et du coup, il y a un effort très particulier qui a été mis en avant pour essayer de mieux les connaître, parce qu'on a des espèces particulièrement rares. Dans les zones humides, qui sont autant profitables aux oiseaux, mais aussi aux batraciens, aux insectes, comme la grillonne de mercure, par exemple, le sonneur à ventre jaune en ce qui concerne les batraciens, et pour les oiseaux, les sarcelles d'été, sarcelles d'hiver, et bien d'autres. Donc du coup, on a quand même une diversité importante dans ces zones-là. Mais pour revenir à ta question première, on classe dans les zones humides rivières, marées, également les lacs, hein, les lacs de retenue ou alors les étangs. On a différents endroits comme ça, et bien sûr, et aussi les sources. On a énormément de sources dans ce département, avec des mousses particulières. À Saint-Maurin, dans les gorges du Verdon, on a retrouvé des mousses qui ne sont pas sur le territoire de manière homogène, pas du tout. On les trouve, elles sont uniques quasiment en Europe, celles qu'on trouve à Saint-Maurin, dans les gorges du Verdon, par exemple.
Allez, on va faire un petit focus sur Manosque, parce que le week-end dernier, je suis allé me promener du côté de la maison de la biodiversité, et je suis tombé tout à fait hasardeusement sur un viaduc.
Yes.
Et ensuite, lorsqu'on descend le lit du ruisseau, eh bien, on tombe sur une source avec de la mousse qui tombe pratiquement en goutte à goutte. Tu peux nous parler un petit peu, faire un petit focus sur ce lieu, si toutefois tu le connais, tu peux nous en parler.
Ben effectivement, la Thomassine, c'est un lieu qui a servi en fait de source d'eau pour Manosque depuis le début, quoi, en fait.
Donc ça, c'était avant l'essor.
Voilà.
Avant l'essor de la Sorre.
C'était avant l'essor de la Sorre, oui. Et il y avait d'autres sources aussi, comme dans le vallon de Gode, là où il y a actuellement géométhane, en fait, qui étaient des zones qui ont été très bien expliquées dans le chemin de l'eau, notamment du comité du patrimoine manosquin, tout ce travail qui a été fait exceptionnel, et du coup qui permet de comprendre que l'eau, effectivement, à Manosque, localement, c'est quelque chose de très important. On a beaucoup de puits qui sont sous la ville, en fait, et on dit que Manosque a les pieds dans l'eau. Il y a beaucoup de caves qui sont inondées, où il y a pas mal d'eau. Et d'ailleurs, apparemment, étymologiquement, Manosque qui veut dire la main qui récupère les eaux, man qui veut dire ma main, et osco qui viendrait de aqua, enfin, par certains éditeurs, quoi, par certains auteurs, je veux dire, ça serait un peu l'explication, la main qui récupère les eaux. Donc beaucoup de sources.
Mais comme c'est poétique, comme c'est magique, on parlait du langage des oiseaux. Lorsque j'ai rencontré Caroline Roux la semaine dernière, il y a trois semaines, un mois, pour préparer cette émission et préparer cette entrevue juste avant toi, on parlait justement de ce langage qui découpe les syllabes, on essaye de trouver du sens quand ça sonne.
Ouais.
Quand ça sonne, ça a du sens forcément. Et tu nous as emmené vraiment dans un univers qui nous éloigne un petit peu des dossiers administratifs dont tu nous as parlé, mais c'était nécessaire de savoir que pour faire valoir ses droits, et ben il faut savoir aussi faire des dossiers administratifs, et ça, c'est valable pour tout le monde. Du représentant de la Ligue des oiseaux jusqu'au petit particulier qui a juste un lopin de terre pour planter ses deux carottes. Bon, là, je mets deux extrêmes exprès pour dire que l'administration, c'est compliqué, mais il ne faut pas trop s'en éloigner, parce que sinon, après, on fait des phobies administratives et puis on oublie.
Ouais, c'est pas forcément le plus plaisant dans ce métier, le rédactionnel, mais bon, c'est vrai que c'est utile quand même. Voilà. Il faut passer par là.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce petit focus en plus sur cette source à la Thomassine. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'une de source à la Thomassine.
Non, il y en a plusieurs.
Il y en a bien plusieurs. D'ailleurs, tu es invité pour nous parler un petit peu du territoire, pas forcément à Manosque, mais puisqu'on diffuse sur tout le PACA, des territoires spécifiques, nous raconter des petites anecdotes ou même des belles histoires, je ne sais pas.
Mais pourquoi pas, ouais.
Ben oui, mais nous allons le faire.
Ouais.
Nous le ferons.
Yes, we can.
Yes. Olivier, je te laisse le mot de la fin. Juste avant, je voulais quand même indiquer que tu es accompagnateur aussi en montagne et que tu as un travail qu'on appelle, c'est un terme franglais, on dit freelance. Alors, tu lances de la liberté, c'est ça? C'est chouette comme truc, t'es un semeur de liberté,
ouais,
c'est ça,
ouais, c'est ça.
Bon, tu as une, tu travailles...
Ouais, je travaille de manière indépendante, avec mon entreprise qui se nomme Nature Provence. Mm-hmm. Et donc, cette entreprise donc sert à compiler les deux types de travaux, donc les études écologiques d'une part et d'autre part des sorties de découvertes que j'organise toujours. Là, pour rien vous cacher, j'ai pas mal d'études en cours, donc du coup, j'ai dû un peu mettre en veilleuse les accompagnements, mais je continue à le faire malgré tout. Et donc, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site.
Et ton site, on le retrouvera sur le site de fréquencemistral.com où voilà. Vous aurez tous les renseignements utiles pour que vous puissiez vivre sereinement en écoutant le chant des oiseaux. Le matin, en ce moment, c'est juste magnifique. On sent que le printemps arrive à grands pas et c'est tant mieux. Olivier, merci infiniment d'être venu nous parler de ton métier.